RFI.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra, negra, 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 negra!
Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Antes los niños no podían hablar de negritud, antes se resistían.
Avant, les enfants ne pouvaient pas parler de négritude. Ils refusaient qu'on les désigne comme noirs. Avant, ils ne savaient pas qui ils étaient et d'où ils venaient.
Y ahora hay niños que responden con empoderamiento.
Maintenant, oui. Ils peuvent se regarder dans le miroir et répondre avec confiance et avec fierté. Bonjour, negra, negro, noir. Les Afro-Équatoriens assument désormais leur couleur, leur identité et leur culture. C'est ce qu'on va voir cette semaine en compagnie de Déborah Gros, notre reporter parti pour nous en Équateur à la rencontre de son peuple afro-descendant. Depuis son indépendance en 1822, ce petit pays d'Amérique latine, baigné par l'océan Pacifique, entre la Colombie et le Pérou, affiche, c'est vrai, une grande diversité culturelle, à l'image de son continent. Sur ses 16 millions d'habitants, qu'ils soient indigènes, métis, afro ou descendants de colons espagnols, la minorité noire est la plus petite du pays, soit 7 à 8% de la population totale. Très longtemps victime de racisme, voire d'oubli, cette communauté descendante d'esclaves se mobilise aujourd'hui et affiche fièrement sa culture et son histoire jusque-là méconnue. En effet, qui sait que sur les terres d'Équateur, une république noire a vu le jour au XVIe siècle? Qui sait aussi que là-bas, des villes s'appellent Africa ou Nigeria? Qui sait enfin que depuis 2002, sur la côte pacifique à Esmeraldas, des milliers de personnes défilent et célèbrent en février la culture afro pendant le carnaval? Katia Obidia est l'organisatrice du festival Afro d'Esmeraldas.
El festival no es solamente de música y danza negra nuestra, la propia de nuestro país.
Ce festival n'est pas seulement un festival de musique et de danse afro d'Équateur. C'est une démonstration des différentes formes d'expression culturelle noire en Amérique latine. Ici, on peut voir comment une culture qui a été soumise, opprimée et reléguée pendant près de 400 ans lutte pour ne pas disparaître.
Pourquoi un festival de musique et de danse afro ici à Esmeraldas?
Pourquoi le faisons ici? Pour algunas razones. Primero, porque esta es una provincia identificada en el
imaginario de nuestro país. Eh bien, parce que déjà la province d'Esmeraldas est dans l'imaginaire de notre pays la province noire.
Que exista política sesgada desde el lado del gobierno.
C'est d'ailleurs pour cela que la politique du gouvernement a toujours été injuste et partiale ici.
Y este gobierno tampoco fue la excepción.
On peut dire que c'est la province la plus en retard du pays, celle dont les gouvernements s'occupent le moins.
La otra razón es porque al no ser
l'autre raison, c'est que, comme cette province a toujours été délaissée, elle a fini par traîner derrière elle toute une série de stéréotypes sur sa communauté noire. Des stéréotypes du genre « le noir est feignant, paresseux, il n'aime pas travailler, il est sale ». Et c'est vrai qu'on vivait dans une ville sale, pleine de déchets. Cela a d'ailleurs énormément affecté les habitants d'Esmeraldas, blessé leur amour propre. Ici, on avait honte de notre culture, on avait honte d'être noir. Alors, quand j'ai rejoint la mairie d'Esmeraldas dans les années 2000, la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de créer une grande assemblée populaire. Pendant un an, on a discuté et débattu de ce qu'on voulait faire de notre ville. Et une des choses qui est ressortie de ces débats, c'est le besoin de s'affirmer au niveau culturel. Il fallait développer des activités culturelles et touristiques pour attirer les gens dans notre ville. C'est pour ça qu'on a créé le Festival Afro au moment du carnaval. Trois pays participent à cette édition, l'Équateur qui est le siège du festival, la Colombie et le Pérou. Mais on a déjà reçu des groupes des Antilles, des îles françaises de la Martinique et de la Guadeloupe. de Porto Rico, du Pérou, du Brésil, d'Argentine, du Chili ou de Bolivie. Et ça, c'était une vraie surprise quand on les a reçus parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des Noirs en Bolivie. On a toujours accueilli une diversité culturelle incroyable.
Nos sentimos orgullosos y con el inmenso placer de estar esta noche aquí en nuestro pueblo de Esmeraldas. Aquí se grabó el disco de Río Mira, por apoyo de la alcaldía ya en ese momento.
Porque es la que más camina, con ella llego a Taboga, ajustame, apriétame, dulce morena.
Me voy con la niña.
Hola amigos, soy Carla Canora, soy artista afro-ecuatoriana.
Je m'appelle Carla Canora et je suis une artiste afro-équatorienne née à Esmeraldas.
Donc vous êtes dans votre ville natale?
Sí, estoy en mi Esmeraldas natal.
Oui, c'est ma ville natale.
Et vous, votre connexion personnelle avec la musique et avec ces chansons-là traditionnelles, elle est venue de votre famille?
No te puedo decir que he crecido en medio de la tradición.
Je ne peux pas te dire que j'ai grandi, baigné dans la tradition afro, mais je suis en train d'apprendre à aimer davantage sa musique. J'ai fait de la musique équatorienne et internationale et maintenant avec ce projet Río Mira, je me sens heureuse parce que c'est une plongée dans mon identité. Je suis une artiste afro-équatorienne, mais dans ce pays, le peuple afro ne représente que 8% de la population totale. Esmeraldas, c'est la ville où se concentre le plus le peuple afro, même si on a puisé dans d'autres cultures. Il y a 13 nationalités indigènes ici. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas intériorisé l'identité et les traditions de mon peuple, même si elles étaient dans l'air. C'est petit à petit, au fil des années, que j'ai ressenti le besoin de m'identifier et d'affirmer mon identité. C'est comme ça que je me suis engagée encore plus.
Et donc sur ce projet Río Mira, qui réunit, je crois, 8 musiciens en tout, pourquoi déjà le choix de ce nom ?
Bueno, el proyecto Río Mira, del que soy parte, es un proyecto que nace.
Le projet Río Mira, dont je fais partie, est né de l'envie de faire connaître le lien qui existe entre les peuples afro-équatoriens et afro-colombiens.
Somos Colombia y Ecuador dos países.
La Colombie et l'Équateur sont deux pays différents, mais le peuple afro est une même nation répartie sur ces deux pays. Le fleuve Mira est un fleuve qui traverse la Colombie et l'Équateur. C'est pour ça que les producteurs ont appelé ce projet Río Mira. On fait tout un travail de mise en valeur de chansons traditionnelles qui ont fait partie de la mémoire populaire en Colombie et en Équateur. Ce sont des chansons qui ont traversé le temps et les générations. Et nous, on cherche à les faire connaître, à les diffuser auprès des nouvelles générations afin qu'elles restent vivantes.
Las canciones de la música tradicional afrocolombiana.
Les chansons traditionnelles afro-équatoriennes et afro-colombiennes racontent le quotidien et la façon de vivre de nos ancêtres, comme par exemple le fait d'aller à la pêche, ce genre d'activité. Ces chansons racontent aussi la souffrance et la frustration que le peuple afro a toujours ressentie dans son cœur à cause du manque de reconnaissance et de visibilité de sa communauté. On commence tout juste à s'affirmer et à chercher à se réapproprier nos espaces. Et pas seulement dans le domaine de la musique. On est en train d'avancer. Des politiques se mettent en place, mais je crois que ça doit venir de chacun d'entre nous. On doit s'engager et aller plus loin avec notre voix en tant qu'afro-équatorien.
Je m'appelle Juan Montaño Escobar. Je suis écrivain et historien local ici en Équateur. Et je me définis comme afro-équatorien, ou bien personne noire. Ça marche aussi.
On est sur la plage de Esmeraldas. Et c'est un lieu symbolique puisque l'histoire du peuple d'ascendance africaine en Équateur commence par la mer. En fait, c'est sur la plage de Portete, un peu plus au sud sur la côte pacifique, qu'en 1553, un bateau échoue. Et à l'intérieur, il y a un groupe de 23 Africains, esclaves pour la plupart, dont Anton, leur leader, et Alonso de Illescas, qui va devenir une figure de la libération des Noirs en Équateur et au-delà.
Ellos viajaban a la ciudad de los Reyes, que era Lima.
Ils voyageaient en direction de la ville des rois, c'était Lima. Ils étaient partis de Séville, ont traversé le Panama, puis longé les côtes de la Colombie, qui évidemment ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Ils sont alors entrés dans l'actuel territoire de l'Équateur. Là, heureusement pour nous, est arrivé ce qui est arrivé. Un naufrage ou un soulèvement, ce qui me semble le plus probable. Ensuite, les esclaves ont pris la fuite. Et ils sont alors entrés en contact avec les populations indigènes. Au début, les relations étaient plutôt bonnes, et puis il y a eu des conflits, mais finalement, ils sont arrivés à s'entendre. On estime que pendant plusieurs décennies, certains disent au moins 100 ans, cette communauté d'esclaves et d'indigènes a réussi à établir ce qu'on appelle dans les textes d'histoire la République des Sambos et des Noirs libres.
El famoso sambaje, ¿no? Que es una clasificación racial.
Le fameux sambaré, qui est une classification raciale, correspond à ce métissage entre indigènes et africains.
Africanos, ¿no?
Et comment s'est formée cette República de los Sambos, République des Sambos?
No era exactamente una república, la denominación la pusieron los colonialistas españoles.
C'était pas vraiment une république, ce sont les colons espagnols qui ont choisi ce nom, peut-être pour se moquer. À l'époque, c'était la monarchie espagnole, européenne, qui était reconnue. Donc le mot « république » avait sûrement une connotation péjorative. C'était une forme d'ironie.
Entonces, a lo mejor ironizaron llamándole república para decir esto. Lo cierto que esto se prolongó por...
Ce qui est sûr, c'est que cette république a duré longtemps. Très longtemps.
Durante decenas de años permanecieron...
Pendant des dizaines d'années, les gens ont vécu en autogestion. Et ça, en Amérique, c'est arrivé à très très peu d'endroits. C'est ce qui fait que la personnalité d'Alonso de Illescas est si importante.
También va indicar que antes no dije. Ellos utilizaron estrategias militares.
Il faut aussi souligner que ces hommes ont utilisé des stratégies militaires pour se défendre. Apparemment, Alonso de Illescas était originaire d'un pays guerrier, probablement le Congo. Il connaissait aussi les stratégies militaires espagnoles, ce qui lui a permis de mieux organiser la résistance.
También estuvo los contactos con los piratas.
Illescas est aussi entré en contact avec des pirates anglais qui attaquaient les galions espagnols sur ses côtes pacifiques. Il permettait aux pirates d'accoster sur son territoire en échange d'armes pour la résistance.
Enfin, la résistance militaire.
Donc cette résistance militaire face aux attaques espagnoles qui cherchaient à soumettre cette population a été, on peut le dire, un succès.
Entonces, se fue armando aquí una concentración de gente.
Et donc peu à peu s'est formée toute une communauté qui bien sûr allait au-delà des 6 femmes et des 17 hommes africains naufragés en 1553. Parce qu'il y a certainement eu d'autres naufrages de bateaux négriers, des esclaves qui ont fui, certains venant des terres ou de la montagne, et c'est ce qui a formé l'actuelle diversité humaine d'Esmeraldas.
La voz de mi madre. essayer de me rappeler un air plus joyeux.
Cette chanson, elle parlait de quoi?
Esta habla de la llegada de mi bisabuelo.
Elle parle de l'arrivée de mon arrière-grand-père à Esmeraldas. Il est parti du fleuve Patilla, près de la mine de Barbacoa en Colombie, pour arriver ici en 1880. Ça a dû lui prendre plusieurs mois pour venir ici, parce que c'était long à pied.
Además de él, venían un montón.
Il y en avait beaucoup d'autres comme lui qui descendaient à pied vers le Pacifique par le fleuve Patilla. Ce sont aussi ces jeunes-là qui ont peuplé Esmeraldas. Mon arrière-grand-père s'appelait Juan Manuel Castillo Real et sa mère Brigida Real. Elle, elle est restée en Colombie. Ils ne se sont plus jamais revus. Je suis Benjamin Banegas, j'ai 39 ans, je suis musicien et j'habite à Esmeraldas. Je suis constructeur de marimbas depuis 13-14 ans.
La marimba est un, digamos, un xylophone.
Le marimba, c'est un genre de xylophone avec des lames en bois et des tubes résonateurs qui, eux, sont fabriqués en caña guadua, un bois de la famille du bambou. La taille des lames et des tubes diminue en fonction de la note.
Pour chaque lamelle de bois, il y a un résonateur, un tube résonateur. Et donc, la lamelle, plus la lamelle est grande, plus le résonateur est grand.
Eso en la parte structurale et en la partie de la construction et de qué está hecho.
Ça, c'est du point de vue de la structure et de la construction du marimba. Mais pour moi qui le fabrique et qui l'accompagne au chant, le marimba, c'est surtout un instrument de libération des hommes et des femmes qui ont été réduits en esclavage quand ils sont arrivés en Amérique. Ça renvoie précisément aux esclaves qui sont arrivés sur la côte pacifique, au sud de la Colombie, et qui se sont déplacés ensuite jusqu'ici, à Esmeraldas.
Elle a permis de donner force à l'homme pour pouvoir se libérer, non?
Donc le marimba a servi à soulager leur peine, à leur donner des forces pour pouvoir se libérer. Ils arrivaient ici enchaînés et attachés, ils ne pouvaient rien amener avec eux. Mais ils ont voyagé avec le marimba dans leur tête, qui peut-être s'appelait balafon. Et ici, ils l'ont rendu tangible.
Et ce qui est aussi bien tangible à Esmeraldas, ce sont les visages noirs de ses habitants, 180 000 au total. Sur l'avenue Libertad, axe principal de la ville qui débouche sur la mer, parmi les sons de cumbia ou de reggaeton, et pas que de marimba, on se demande même si l'on est bien en Équateur. Tout autour de l'avenue se déploient alors des ruelles sans bitume et des maisons en tôle et parpaings. Très vite, le dénuement se fait sentir. À l'horizon, pourtant, les torchères fument nuit et jour, produisant plus de 110 000 barils quotidiens. L'Équateur exporte jusqu'à 70% de son or noir. Les recettes pétrolières sont immenses, 12 000 millions de dollars par an. Sauf que ses habitants de la côte nord n'en voient pas tellement la couleur. Mélissa Coulardet est une jeune métisse franco-afro-équatorienne de 25 ans.
Esmeraldas est une grande ville. Elle a ce qu'on appelle la refinería, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gros canaux qui viennent depuis El Oriente, depuis Puyo, Sucumbíos, qui sont justement de la partie amazonienne de notre pays, là où on extrait le pétrole, et on l'amène jusqu'à Esmeraldas pour la traiter, pour ensuite les embarquer dans les grand bateau, dans les bucs.
Depuis combien de temps tu vis à Esmeraldas et quel est ton lien avec cette ville?
Écoute, j'habite ici depuis 7 mois, mais Esmeraldas, je connais depuis que je suis toute petite, vu que j'ai ma famille de la part de ma mère ici. Donc toutes les vacances d'été, je venais passer ici 3-4 mois et donc je m'identifie vraiment avec la population esmeraldeña. Bon, moi, j'habite dans un quartier assez chaud. La majorité des personnes qui y habitent sont bien évidemment de couleur obscure. C'est un quartier qui s'appelle Voluntad de Dios. Voluntad de Dios, ça veut dire la volonté de Dieu. Donc, ça s'entend un peu brésilien, ghetto brésilien. Ça se rapproche un peu, oui.
Et on m'a dit que cette région de Esmeralda, c'était l'une des plus pauvres de l'Équateur. Enfin, est-ce qu'on peut parler de pauvreté ou en fait non, c'est juste une vision?
Oui, bah oui, on peut parler de pauvreté. Et voire, on peut parler de pauvreté extrême. Pourquoi? Parce que la ville d'Esmeraldas, là, c'est très, très corrompu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au pouvoir à Esmeraldas, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se remplissent les poches. Et comme c'est un port, il y a beaucoup plus d'argent. Donc malheureusement, oui, oui, ça se ressent, la pauvreté. Ça fait à peine, même pas un mois, qu'on a maintenant de l'eau courante tous les jours. Après, c'est de l'eau assez contaminée qu'on a. Alors, beaucoup de personnes, comme moi, achètent de l'eau pour boire. Et beaucoup de gens achètent, enfin, profitent de l'eau qu'ils ont et ils la font bouillir. Mais ça reste toujours assez délicat, non, comme niveau santé.
Nous avons des rivières, mais nous n'avons pas d'eau. Nous avons le meilleur port du pays, le plus proche du Panama. Mais les bateaux arrivent ailleurs, à Guayaquil ou à Manta. Nous avons la mer, mais nous n'avons pas d'usine de thon ou de conserverie. Nous avons les plus beaux fruits exotiques d'Amérique latine, mais nous n'avons pas d'entreprise pour les conditionner.
Isabelle Padilla travaille à la pastorale afro de l'association caritative catholique Caritas.
Nous avons une merveilleuse constitution qui dit que l'État protège sans distinction tous ses citoyens, mais aussi la nature. Sauf qu'une grande partie de la population noire d'Esmeraldas est abandonnée, sans accès aux services de base. Ce qui fait que les gens partent dans les grandes villes, vers les cordons de misère. Ils quittent un territoire qui pourtant leur a permis de vivre pendant des années, de génération en génération, parce qu'avant nous avions la terre. On pouvait semer, récolter et vivre en harmonie avec la nature et les autres. Nous pensons que c'est la faute de l'État, car maintenant ces territoires sont occupés par des grandes entreprises que l'État a cédées à travers des concessions. Son but, c'est de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches. Tout ça a généré énormément de corruption à l'échelle du pays. En ce moment, on crée des réseaux, des alliances d'entraide avec d'autres organisations au niveau national, parce qu'il s'agit d'un problème national. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a tous participé à une grande marche pour dire assez au gouvernement. On ne veut plus que l'État continue de détruire nos territoires. Ces terres n'appartiennent donc plus aux paysans, mais aux grands propriétaires. Les paysans qui ont toujours vécu ici sont obligés de travailler pour ces propriétaires. Et ça, c'est une autre forme d'esclavagisme.
En la época de la colonia, cuando América Latina era dominada por España.
À l'époque de la colonie, quand l'Amérique latine était dominée par l'Espagne, la société était structurée selon la race. Et les Blancs espagnols étaient au sommet de la pyramide sociale. Je suis John Anton Sanchez, professeur à l'Institut des hautes études nationales d'Équateur.
C'est une pyramide raciale.
Après les Blancs, c'est-à-dire les Espagnols d'Amérique, dans cette pyramide, il y avait les Métis ou les Mulâtres, et les Noirs libres, les indigènes et enfin les esclaves. Et cette pyramide raciale qui met les Blancs en haut et les esclaves africains en bas, eh bien, elle se maintient encore de nos jours. Autrement dit, la démocratie libérale latino-américaine n'a pas su briser les différences sociales qui existent chez ses habitants en fonction de leur culture et de leur race. Sous le gouvernement de l'ex-président Rafael Correa de 2007 à 2017, malgré une réduction significative de la pauvreté et la promotion du concept de bien-être social par ce même gouvernement, la fracture sociale entre noirs et blancs n'a pas du tout disparu. C'est encore rare de nos jours de voir un indigène ou un afro-descendant occuper un poste important. On les voit toujours dans le commerce informel, l'agriculture ou bien le service domestique. Mais voir un professeur d'université noir comme moi, cela reste une exception.
Où vivent actuellement les communautés afro-équatoriennes ?
Le 73% de la population afro-équatorienne est dans les grandes villes.
73% de la population afro-équatorienne se trouve dans les grandes villes. D'abord Guayaquil, puis Esmeraldas, San Lorenzo, Santo Domingo, Quito. En gros, il y a à peu près 15 villes où la population afro-descendante est fortement ancrée.
Conservamos dos territorios ancestrales muy importantes.
Mais il y a quand même deux territoires ancestraux, historiques, très importants en Équateur.
En especial el norte de Esmeralda.
Le premier, c'est le territoire d'Esmeraldas, spécifiquement dans le nord, près de la frontière avec la Colombie, où 92% de la population est afro-équatorienne.
El Valle del Chota.
Le second territoire, c'est celui de la vallée du Chota, qui regroupe 6 communes dont la population est issue de l'esclavage. On les retrouve à 150 km au nord de Quito, dans la zone andine.
50 km au nord de Quito.
Ces deux territoires possèdent des caractéristiques culturelles fortes, mais très différentes. À Esmeraldas, la population afrodescendante vit dans un climat humide, tropical, proche de la mer. Les gens vivent de la mer et de l'exploitation des ressources minières et forestières. Au contraire, dans la vallée du Chota, le climat est chaud et sec. Là-bas, on trouve des monocultures de canne à sucre, de haricots et d'arbres fruitiers.
À Esmeraldas, le nom d'Alonso de Illescas, cet illustre résistant noir du XVIe siècle, s'affiche en grand sur les bus de la ville. Et c'est justement en bus que Déborah part désormais rejoindre la vallée du Chota, cet autre foyer de la communauté afro. En chemin, elle traverse une forêt tropicale, humide et dense. Et nous, on pense aux palenques, ces lieux de marronnage isolés où jadis se réfugiaient les esclaves fugitifs. Mais tout de suite, c'est Tres Marias, trois sœurs de la vallée du Chota, qui nous attendent sur RFI.
C'est proche, tous les voyages sont sur RFI.
Par ici, il y a des mangues. Là, des avocats.
Et la partie acá tenemos café.
Et là, dans cette partie-là, on a du café.
Mi nombre es José Marcelo Acosta Méndez.
Je m'appelle José Marcelo Acosta Méndez. Je travaille pour la ferme expérimentale Tadeo Méndez de la commune de La Concepción. En Europe, on nous appelle les Noirs des Andes, mais le terme n'est pas approprié. On n'est pas dans les Andes. Ici, c'est une vallée chaude.
Tenemos montañas, tenemos vertientes, tenemos riachuelos.
On a des montagnes, des pentes, des petites rivières. Là, on se trouve plus ou moins entre 1000 et 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et si nos ancêtres se sont installés dans cette zone, c'est pour les caractéristiques du climat et du milieu qui sont très agréables.
Donc là, on est dans la propriété où vous travaillez, juste au-dessus de la Concepción. Vous travaillez depuis longtemps ici et dans l'agriculture ?
Oui, depuis tout petit. Ici, la majorité des habitants de la vallée travaillent dans l'agriculture. On a aussi l'avantage d'avoir une grosse usine de sucre qui a donné du travail à beaucoup de gens ici.
Après 6 heures de route sinueuse, Déborah Gros a donc débarqué dans le petit village de la Concepción. Parmi les montagnes pelées, baignant dans la brume, un décor typique des Andes, n'en déplaise à Marcello. À la Concepción, on est accueilli par une statue de femme noire portant son enfant dans un genre de pagne avec des fruits et des légumes à ses pieds. Un hommage à la tradition agricole mais aussi africaine des lieux. Et c'est sur cette place que Déborah a retrouvé Barbarita Lara, enseignante afro et conseillère municipale à la Concepción.
Là, c'est le complexe colonial, l'ancien couvent qui a été restructuré. Ici, on dit que c'était la cour et les écuries. Puis derrière, le canal d'irrigation qui alimentait la roue du moulin à canne à sucre. Il y a encore des vestiges de ce moulin, pas loin de la place. Là, c'est l'église, dont les murs datent du XVIe siècle. Il faut bien se rappeler que le processus colonial esclavagiste a été mis en place par l'ordre religieux de la Compagnie de Jésus. Donc, la Concepción, c'était le centre des opérations des jésuites.
Et pourquoi ils ont commencé à amener des esclaves noirs ?
Parce qu'ils avaient le projet de cultiver d'abord le coton, puis la vigne et la canne à sucre. Mais cette production n'était pas destinée à l'exportation en Europe. Elle nourrissait les esclaves qui travaillaient dans les mines. Les mines d'or, d'argent et d'émeraude qu'on retrouve sur la côte pacifique.
Et la croix, qui est originale,
et la croix que vous voyez là, elle date du XVIe siècle. Elle a été construite dans un seul et même bloc de pierre. C'est face à cette croix qu'ont été fouettés Martina Carrillo, Pedro Lucumi et leurs compagnons. Martina Carrillo a vécu ici dans la communauté de la Concepción et elle faisait partie d'un groupe de 7 personnes réduites en esclavage. Et donc, ce groupe de 7 personnes est parti à pied jusqu'à Quito pour dénoncer les mauvais traitements et les châtiments qu'ils enduraient. Et quand ils sont arrivés à Quito, à l'époque, le président de l'audience royale de Quito les a reçus. Preuve en est, quand ils sont revenus à la Concepción, ils ont apporté une réponse écrite du président avec une liste de 10 droits de base pour les personnes réduites en esclavage.
Derechos elementales.
Des droits qui font rire aujourd'hui tellement ils sont ridicules. Par exemple, le droit le dimanche d'avoir la journée libre pour balayer sa maison et aller à la messe. Ou bien le droit de recevoir une pioche pour travailler son lopin de terre, et ainsi de suite. Quand le groupe de Martina Carrillo est rentré, ils ont été accusés de marronnage et condamnés à des coups de fouet. Et c'est là qu'ils ont reçu les coups de fouet. Juste ici.
Eso hasta ahí estamos y nuestra lucha y Martina Carrillo ha sido ese referente.
Aujourd'hui encore, dans nos luttes, Martina Carrillo est une référence. Parce qu'elle n'a pas lutté dans le vide, elle n'a pas non plus jeté de pierre. Elle et son groupe sont allés négocier en s'appuyant sur un fondement légal. Et c'est le chemin que doivent prendre nos luttes aujourd'hui.
Ahí dejamos construyendo.
Il faut se doter de moyens légaux pour réclamer ensuite de l'eau potable, une éducation digne d'un être humain. On milite aussi pour l'enseignement de l'ethno-éducation, afin de partager les savoirs et l'histoire du peuple afro-équatorien.
Mi nombre es Catherine Chala, tengo igual 25 años.
Je m'appelle Catherine Chala, j'ai 25 ans. Je suis une jeune afro-équatorienne très liée à la population afro de la vallée du Chota.
Bueno, nuestros abuelos nacieron ahí, crecieron ahí, nuestros bisabuelos también.
C'est ici que nos ancêtres sont nés et ont grandi. C'est ici qu'ils se sont installés et ont été réduits en esclavage et ont combattu. Pour moi, Chota renvoie à la résistance et à la liberté, ce qui me rend encore plus fière de mes origines. Donc, la famille Chala appartient à la vallée du Chota et à ce mouvement de résistance.
De la rebeldía. Yo nací acá en Quito.
Moi, je suis née à Quito.
Los lazos familiares, los lazos culturales.
Mais mes liens familiaux et culturels sont intimement reliés à ce territoire. Je porte un nom d'origine africaine. Et ici, on trouve Anangono qui viendrait d'Angola. Nous, les Chala, nous venons du royaume Lunda. Nous ne sommes pas des esclaves. Là-bas, nous étions des princes et des princesses et nous avions notre propre mode de vie. C'est pour ça que je revendique avec fierté qui je suis et d'où je viens.
Tenía siete años apenas.
J'avais 7 ans à peine.
Apenas siete años.
À peine 7 ans.
¿Qué siete años?
Comment 7 ans?
No llegaba a 5.
N'en avait même pas 5.
De pronto unas voces.
Tout à coup, des voix dans la rue m'ont crié.
Negra, 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 negra.
Noir.
Soy acaso negra,
tu es vraiment noir?
Sí.
Qu'est-ce qu'être noir?
Negra.
Je ne savais pas la triste vérité que cela cachait. Et je me suis sentie noire, comme ils le disaient. Et j'ai reculé, comme ils le voulaient. Jusqu'au jour où, alors que je reculais, que j'allais tomber. Et alors, je suis noire, noire, oui, c'est moi, je suis noire. Mais de quelle couleur? Comme ce mot est beau. Et quel rythme il a.
Bueno, ahorita estamos con el grupo de danza Mapalé.
Nous sommes le groupe de danse Mapalé et on appartient au village de la Concepción.
Este grupo está conformado por 14 chicas.
Ce groupe est composé de 14 filles et 2 garçons. Parmi eux, il y a des petites filles et des jeunes de 15-16 ans. Je suis la plus âgée. Le nom Mapalé signifie la force avec laquelle résonnent les tambours, le son de l'eau, l'ardeur et la malice avec lesquelles bougent les hanches.
Donc là, je suis chez Tania Espinosa, une petite maison dans le village de la Concepción. Et Tania est entre autres responsable du groupe de jeunes afro de ce village. À la Concepción, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes qui habitent ici?
Bueno, aquí para los jóvenes sería la falta de oportunidades.
Le plus difficile ici pour les jeunes, c'est l'absence d'opportunités. Beaucoup de jeunes sont obligés de migrer dans les grandes villes, certains pour trouver du travail, d'autres pour les études. Moi, il y a 2 ans, je suis revenue de Quito. J'étais partie là-bas pour trouver du travail. J'y suis restée 1 an, j'ai étudié 1 semestre dans le secteur de la petite enfance, puis je suis rentrée à la Concepción. Mais j'ai continué à étudier un peu, je suis aide-soignante.
Et en ce moment, tu es un peu la responsable de la famille, parce que là, vous vivez plusieurs frères et sœurs, puis ton fils aussi qui habite ici et ta maman.
Depuis la mort de mon père, je suis devenue le chef de famille. C'est à moi de travailler maintenant, parce que j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Ma mère travaille dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'agriculture n'est plus rentable parce que les produits n'ont pas de prix fixe. Cela ne vaut pas la peine de travailler autant. Les prix peuvent monter et descendre. Donc c'est difficile pour moi parce que j'ai aussi mon fils à élever, même s'il père m'aide un peu. Mais bon, si je n'ai pas plus d'opportunités, je crois qu'il va falloir que je parte à nouveau.
joven de la capital y ha llegado al platanal de Cabuya. Entonemos una bomba y a la patria ecuatoriana. Entonemos una bomba y a la patria ecuatoriana.
Je suis à Calapongo, tout au nord de Quito, un quartier populaire. On voit beaucoup de maisons basses en cours de construction, avec les façades à nu, beaucoup de fils électriques qui quadrillent le ciel. Là, je vais toquer à la Fondation Azúcar, une fondation de développement social et culturel afro, qui est dirigée par Sonia Viveros, une militante qui défend depuis plus de 20 ans le droit des personnes d'ascendance africaine en Équateur. Hola, Sonia.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bonjour. Bienvenue à la Fondation Azúcar.
Esta zona del noroccidente de Quito.
Là, on est au nord de Quito, où se trouve une grande partie de la communauté afrodescendante. Et je crois que si je vous montrais une carte de Quito, vous verriez à quel point les afros se concentrent dans les mêmes endroits. Les zones sont bien démarquées. Et la plupart est originaire des régions de Imbabura et Carchi. D'ailleurs, mes parents viennent tous deux de ces régions. Ma maman est du Carchi et mon père vient de la vallée du Chota. Ils font partie des premiers immigrés qui ont quitté leur communauté très jeune pour trouver de meilleures conditions de vie dans les grandes villes. Et je crois que le plus beau pour eux a été d'avoir leurs enfants, nous.
Azúcar nace en 1993.
Alors, donc la Fondation Azúcar est née en 1993. Et à ce moment-là, en 1993, on ne se doutait pas qu'on allait prendre part à la construction d'un grand mouvement afrodescendant, à la fois politique, social et visible. Il s'est développé par étapes. En 1997, en 2001, puis en 2008, jusqu'en 2018. C'était un processus qui a permis à la communauté d'exister non seulement dans le secteur culturel, mais aussi social, de peser au niveau social. En 1997 est proclamée la Journée nationale du peuple nègre, une date emblématique qu'on célèbre chaque année. Puis, en 2001, il y a eu la Conférence mondiale contre le racisme de Durban, où sont allés de nombreux compagnons, des penseurs de l'alliance stratégique des peuples afro dans le monde. Ils ont l'habitude de dire qu'ils sont arrivés à Durban, en Afrique du Sud, noirs, et sont ressortis afro-équatoriens. Pourtant, il a fallu attendre 2008 pour que la Constitution de l'Équateur fasse disparaître le terme noir. Nous avons alors été reconnus en tant que peuple afro-équatorien, ce qui nous a permis d'accéder à une série de 21 droits collectifs qui correspondent aux besoins du peuple afro. Il y a 15 ou 20 ans, on ne pouvait pas discuter aussi librement de ce sujet comme on le fait aujourd'hui, peut-être par méconnaissance. Par peur aussi, tout un tas de raisons qui empêchent le développement libre des citoyens du monde. Je crois qu'au niveau mondial, le terme afrodescendant a évolué de manière positive depuis 20 ans. De nombreux projets éducatifs ou sociaux ont émergé afin de maintenir et transmettre aux nouvelles générations l'essence de notre culture. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on est sur le chemin de l'égalité et l'équité.
Se sigue manteniendo una visión reduccionista de que los afrodescendientes somos rurales y somos muy parecidos a los indígenas.
De nos jours, on a une image assez réductrice des afrodescendants.
Nosotros tenemos una visión.
On nous voit comme des ruraux, proches des communautés indigènes, alors qu'il s'agit de deux mondes très distincts.
Diferente de autonomía y
autodeterminación. Nous, les afros,
Nous avons une approche citoyenne d'inclusion et d'égalité, alors que les indigènes défendent l'autonomie et l'autodétermination. Cependant, les problèmes que nous rencontrons dans les zones rurales et dans les villes sont assez proches. Ce qui se passe sur les terres historiques des afro-descendants affecte les conditions de vie des afros dans les grandes villes. Par exemple, dans la vallée du Chota, il y a une grande concentration de la terre dans les mains de personnes qui ne sont pas afro-descendantes. Il y a une importante érosion par manque d'irrigation, mais aussi un contrôle et un monopole des cultures de canne, de haricots et de fruits par les grands propriétaires terriens.
C'est beaucoup plus dramatique, le thème de la présence de groupes armés illégaux.
Au nord d'Esmeraldas, la situation est encore plus dramatique, avec la présence de groupes armés illégaux, la déforestation, la pollution des rivières due à l'exploitation minière et la destruction de la mangrove par les bassins d'élevage de crevettes.
Et la carencia de recursos de agua potable, de alcantarillado y de viviendas dignas.
Dans la ville, on manque d'eau potable, d'égouts et de logements dignes. Tout cela entraîne un stress social. Nos communautés perdent la maîtrise de leurs terres et doivent migrer vers les grandes villes où ils s'installent en périphérie dans des ceintures de pauvreté et de misère. Ça, c'est un schéma de répartition de la population selon la race et la pauvreté que l'on retrouve dans la plupart des centres urbains d'Amérique latine où il y a des afro-descendants. À Cartagène, une des villes où il y a le plus d'afro en Colombie, tous les quartiers populaires sont occupés par les afros. À Rio de Janeiro, à Sao Paulo, au Brésil, les grandes favelas sont surtout peuplées d'afro-descendants. Avec l'esclavage et la traite transatlantique, les Africains ont été transformés en noirs, c'est-à-dire en une catégorie marchande, utile à l'augmentation de capitaux. Donc aujourd'hui, il faut déconstruire ce concept de noir, parce qu'il appartient aux inventions coloniales de l'Europe.
Recordemos que en el año 2008, l'activisme de los afro-équatoriens.
Il faut bien se rappeler qu'en 2008, l'activisme des afro-équatoriens a permis, et j'ai participé à ce combat, de remplacer dans la Constitution le mot « noir » par celui d'afro-équatorien ou d'afro-descendant. On a alors été reconnu comme un élément de la diversité culturelle du pays. On peut dire que c'est une rupture violente, mais le racisme est violent, le colonialisme aussi est violent. C'est une rupture violente qui fait naître un nouveau sujet de droit qui n'est ni aliéné, ni racialisé, ni rabaissé. Un être qui se revendique tel qu'il est, en tant qu'être humain qui interroge.
Car au bout du chemin, il y a l'homme, tout simplement. C'est ce que nous dit John Anton, professeur et activiste afro-équatorien. C'est aussi la leçon que l'on tire de ce périple singulier qui emmène le voyageur très loin des sentiers touristiques. C'est vrai que d'habitude, en Équateur, on voyage plus, dans la cordillère des Andes ou les îles Galapagos. Dans la communauté afro, on cherche alors à attirer le voyageur. À Esmeraldas, par exemple, à travers son festival, ou dans la vallée du Chota, où des femmes rassemblées sous le nom d'Espérance Noire ont développé un artisanat de masques africains et d'ethnotourisme chez l'habitant. Se réapproprier, valoriser et partager la culture afro, c'est aussi l'objectif du musée afro que porte Sonia Viveros à Quito. Elle cherche encore un lieu pour l'accueillir. Bon, c'est pas tout à fait encore une révolution, mais les afros sont bel et bien en marche. Merci à Déborah Gros pour ce voyage. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.